particulière. Merci d'être avec nous, David Leister. Bonjour.
Merci à vous.
Vous êtes président du MR en région bruxelloise. Comment allez-vous ?
Mais fort bien, malgré les événements, je vais bien.
C'est ça, vous trouvez une rédaction un peu obsédée. Ce matin, on a eu plusieurs témoins des événements qui se sont produits toute la nuit en Israël, même si le regain de tension a commencé il y a quelques jours à Jérusalem, ça s'est distribué dans le reste du pays. Il y a eu des réactions internationales qui sont ce qu'elles sont. Ce sont toujours à peu près les mêmes. Anthony Blinken qui appelle à la désescalade et calquant un petit peu sur ce modèle-là, les réactions s'enchaînent à Londres et à Bruxelles aussi. Sophie Wilmès, pourriez-vous, sur les ondes de Radio Judaïka et sur des ondes en général, être le premier Belge à exprimer peut-être de façon un peu plus ample votre réaction à ce qui se passe en ce moment en Israël ?
La première réaction, évidemment, c'est une très forte préoccupation. Quand on voit ne fût-ce que les images, quand on lit les articles ce matin, on pouvait espérer que la décision de la Cour suprême de reporter sa décision, justement, allait peut-être un tout petit peu calmer les tensions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'était peut-être un peu naïf et on le voit. Ça s'escalade à la fois à Jérusalem, Jérusalem-Est, mais aussi à Gaza. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, peut-être d'analyse, c'est qu'on vit, évidemment, une situation politique qui est particulièrement spéciale, que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien, avec l'absence probablement de leaders suffisamment forts. Je crois que Benjamin Netanyahou est dans une situation politique compliquée. On le voit, mais on voit aussi de l'autre côté avec le report constant des élections. Et donc, il y a évidemment une situation qui peut-être est plus propice, un terreau qui est peut-être plus fertile à toute une série d'escalades. Et puis, il faut aussi voir quelles sont les attentes pour le moment des plus belliqueux vis-à-vis de l'administration Biden. Est-ce qu'il y a une volonté actuelle de tester comment l'administration Biden va réagir, cette nouvelle administration, quel va être maintenant véritablement son rôle, parce que c'est le dernier volet de l'analyse que je voulais vous livrer ce matin, c'est cette absence peut-être de dialogue depuis trop longtemps. Il y a cette absence, cette vacuité, je dirais, de médiateur international, qu'ont pu être les États-Unis à une époque, qu'ont pu être d'autres acteurs à une autre époque, depuis maintenant trop longtemps, et on se retrouve aujourd'hui avec uniquement des préoccupations qui sont d'ordre belliqueuse, mais peu d'ordre pacifique. C'est interpellant.
Oui, Joe Biden qui essaye de mener dans ses premiers 100 jours tambour battant sa présidence, on ne l'attendait pas exactement là. Vous dites que malgré tout, il y a une vacuité. C'est vrai qu'il est obligé de s'occuper d'abord d'affaires internes. Cela dit, il semble être sur tous les fronts, y compris ceux de la rhétorique, puisqu'il attaque fort certains ennemis. Selon vous, on peut quand même parler de vacuité pour définir Joe Biden ?
Alors non, je ne parlais pas de lui, je parlais, je dirais, de ces derniers mois, ces dernières années. C'est plutôt ça. Alors c'est vrai qu'il vient d'arriver, il ne peut pas être sur tous les fronts, et pourtant il y est, et il fait ça plutôt bien, mais c'est vrai que ici, depuis qu'il est arrivé, je crois que c'était pas son premier dossier, il n'a plus le choix maintenant. Il va devoir prendre des choses à bras le corps, je pense que, et on espère qu'il pourra jouer un rôle démocratique et le plus pacifique possible avec son administration. Croisons les doigts.
Une vaccination qui va bien, en tout cas aux États-Unis. Quel est votre sentiment quant à la Belgique ? Je sais que vous êtes intervenu beaucoup sur ce sujet-là, au sujet d'un éventuel passeport vert, passeport vaccinal. On peut commencer peut-être assez légèrement par une polémique qui a quand même un peu terni l'ambiance de la réouverture des terrasses, le Plexigate. De quel camp êtes-vous ?
Oh, je pense que je suis dans le camp de la clarification et surtout... Je pense qu'un arrêté ministériel, le vendredi matin, si je me souviens bien, expliquant que le plexi est autorisé là, mais pas là, dans telle et telle condition, n'est pas de nature à rapprocher évidemment nos commerçants et nos indépendants qui se sont fort battus et qui ont beaucoup de problèmes ces derniers mois avec le gouvernement. Je comprends qu'il y a dans cette crise plus de questions que de solutions, mais quand même, je crois qu'il y a des moments où il faut plus de clarifications. Donc voilà, je comprends que le Codeco va se pencher dessus ici très bientôt et que ça sera beaucoup plus clair.
Vous attendez quoi du Codeco de tout à l'heure ?
Des mesures sérieuses et des mesures, je dirais, qui sont correctes. Alors on voit les chiffres descendre, la vaccination progresse. On doit faire très attention aussi au nombre de doses dont la Belgique pourra encore bénéficier dans les prochaines semaines. On pense qu'on est suffisant, mais il y a toute une politique polémique autour d'AstraZeneca. Donc on voit ici que Bruxelles, par exemple, va diminuer probablement sa vaccination pendant quelques jours pour faire des stocks, pour pouvoir appréhender le mois de juin et le mois de juillet correctement. Donc il faut quand même qu'on continue à faire attention à cela. Mais après, force est de constater que les gens ont besoin de liberté. J'imagine que vous êtes aussi un peu sorti ce week-end. On le voit, il y a toute une série de règles, de critères qui ne peuvent plus être respectés parce que les gens ont besoin d'un peu plus de liberté. Donc tant qu'on voit que les chiffres diminuent, je crois qu'on peut rouvrir. Mais on doit rester toujours prudent. Vous savez, pas plus tard qu'hier, on a dû malheureusement présenter nos condoléances à un ami de Jette, qui était au VLD à Jette et qui est décédé du Covid en 4 semaines. Donc on doit quand même rester très prudent.
On vous a vu, cela dit, radieux dans un selfie posté sur Facebook en terrasse le jour de l'ouverture couverture, c'est quand même quelque chose que vous avez accueilli très volontiers.
Très volontiers. Alors, vous savez, moi, c'est aussi mandataire local, et donc on est de facto le réceptacle de nombreuses plaintes, de nombreuses complaintes, et c'est tout à fait normal de tous ces restaurants qui ont dû fermer. Et donc, j'ai passé mon samedi et mon dimanche entre deux, trois activités à faire le tour de tous les cafés, de tous les restaurants, pour les saluer, pour les encourager. J'ai pas pu les manger partout, heureusement. Mais c'est sûr que c'est aussi l'occasion de retrouver un moment un tout petit peu différent dans un autre cadre, avec ma compagne en l'occurrence, et ça fait du bien.
Alors, la région bruxelloise vient quand même en aide à l'Horeca et plus généralement aux entrepreneurs belges. Il y a un certain nombre de mesures. Certaines, selon vous, méritent d'être retouchées, si je ne me trompe pas. Il y a notamment le couac, dites-vous, de la prime Tétra. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est la prime Tétra?
Bien sûr.
Et ensuite expliquer pourquoi, selon vous, il y a un couac là-dedans.
Bien sûr. Il y a plusieurs éléments. La prime Tétra, c'est la troisième prime qui a été octroyée par le gouvernement bruxellois au secteur fermé. Une prime qui est arrivée plus tard, beaucoup plus tard qu'en région flamande, qu'en région wallonne. On l'a dit suffisamment, je ne vais pas revenir dessus. Et une prime que l'on a d'abord accueillie avec beaucoup de plaisir. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que si vous lisez les petits critères, les petits caractères des conditions d'accès à cette prime, vous laissiez toute une série de restaurateurs, d'indépendants sur le bord du chemin, parce qu'ils n'y avaient pas accès, parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions qui étaient beaucoup plus strictes que celles appliquées en région wallonne ou en région flamande. On a donc collecté pas mal de témoignages en la matière, et puis on a interpellé, c'est notre rôle de parlementaire, Barbara Tracht au Parlement bruxellois, pour lui montrer clairement qu'il y avait des éléments à modifier. Ils ont annoncé au gouvernement bruxellois qu'ils allaient modifier cette prime Tétra, donc on reste extrêmement prudent. J'ai encore eu pas mal de contacts avec les fédérations ce week-end. Ils sont positifs et optimistes. J'espère que ça pourra se faire.
Vous parliez de Barbara Tracht. Son gros dossier, ça a été de favoriser le click and collect à un moment où, évidemment, on ne pouvait plus faire que ça, notamment dans l'Horeca. Vous êtes plutôt constructif sur ces sujets, à savoir que ce qui a été mis en place doit être ajusté à l'aune d'une situation qui est évidemment inédite. Mais est-ce que vous vous félicitez quand même des actions du politique en général, ou selon vous, ça ne va pas, ça a été mal géré, comme on l'entend dire certaines fois?
Oh, ce serait trop simple, évidemment, de jeter l'opprobre sur tout le personnel politique. Je pense qu'il y en a qui ont vraiment essayé de faire de leur mieux, y compris ceux qui ne sont pas de mon parti. Et puis, il y a eu d'énormes couacs, et je trouve qu'en effet, à Bruxelles, il y a quand même eu à la fois beaucoup de lenteur, beaucoup de retard au démarrage, une logique un peu parfois du roi du matelas, où tout était bradé, le montant des primes, l'attente pour pouvoir bénéficier justement de ces primes. Mais cela dit, il y a aussi derrière les femmes et les hommes politiques, des administrations qui ont aussi donné leur meilleur. Vous savez, je suis moi-même président de CPS, j'ai pu voir à l'œuvre, et encore aujourd'hui, des infirmiers et infirmières, des aides-soignants qui se battent et qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie. Je crois qu'il faut aussi pouvoir féliciter cela. Par rapport au click and collect, c'est évidemment une belle initiative qu'il fallait en fait pouvoir développer depuis très longtemps. On sait qu'à Bruxelles, un des éléments d'embouteillage, c'est le dernier kilomètre. Et donc il faut pouvoir travailler sur ce dernier kilomètre-là, comment s'assurer que ça puisse être beaucoup plus fluide pour les commerçants et pour les bénéficiaires, pour les clients. Mais il y a un autre élément aussi, le click and collect, c'est facile évidemment pour des grandes enseignes qui peuvent facilement développer un site internet et puis créer une logistique tout autour. Ça n'est nettement moins pour mon couturier du coin, pour mon boulanger du coin, même s'il n'est pas fermé ou d'autres. Et c'est là où je pense que le pouvoir public bruxellois a quand même un rôle à jouer pour faire de Bruxelles une plateforme de l'innovation, de la technologie. À ce niveau-là, je crains que le gouvernement bruxellois ait été à la traîne.
Il y a un secteur qui représente assez peu en termes de PIB, même si c'est un secteur dynamique, c'est celui de la culture, théâtre occupé. C'est vrai que le MR, par exemple, on l'entend assez peu sur ce sujet. On se rappelle de Sophie Wilmès qui, quand elle était encore première ministre, avait un peu choqué en parlant de ces gens qui avaient besoin d'exercer leur art face à une situation épidémique qui semblait compliquée. Aujourd'hui, le secteur crie famine, si j'ose dire, et attend des choses du Codeco d'aujourd'hui. Pourquoi on n'entend pas vraiment le MR sur ces questions?
Alors on a été en fait fort en point sur le statut d'artiste en parallèle, donc on a voulu s'assurer que précisément lorsque des artistes se retrouvent face à des situations où ils ne savent pas facturer, où ils ne savent pas avoir des rentrées, ils puissent quand même avoir derrière ça une intervention de l'État, de près ou de loin. Donc on a fait une proposition qui est quand même, je pense, assez ambitieuse et qui est inédite, ça c'est un premier volet. Sur le second volet, sur le point sur lequel on a beaucoup insisté ces dernières semaines, voire depuis décembre, c'est précisément cette organisation d'événements plus tests. On sait, il y a, en Israël par exemple, mais aussi dans des tas d'autres pays, toute une série de mécanismes, de systèmes qui ont pu être développés, qui ont pu être appliqués pour tenter de vivre, pas avec le virus, mais malgré le virus. La Belgique avec Air Stérile, par exemple, qui est une société qui est assez en pointe en la matière, mais aussi d'autres que j'ai pu visiter la semaine passée, ont développé des systèmes qui pourraient limiter la propagation du virus dans des cercles fermés, parce que c'est parfois souvent le problème maintenant de la culture, c'est que ça se fait dans des théâtres, ça se fait dans des cinémas, et donc c'est un lieu où apparemment le virus se propage un peu plus rapidement, ou beaucoup plus rapidement. Nous, on est demandeurs depuis novembre, décembre, janvier, qu'il y ait ces phases test. On n'a malheureusement pu l'obtenir que maintenant, ce qui est beaucoup trop tard. On a fait ce qu'on a pu, mais ce qui est beaucoup trop tard. C'était en réalité principalement d'abord pour la culture. On va voir en espérant que ça puisse fonctionner les prochains jours, prochaines semaines.
Oui, c'est ce qui a été conduit il y a un mois et demi maintenant à Barcelone, et puis on voit qu'au KVS notamment, ça s'est tenu. Vous êtes, disiez-vous, président de CPAS. Duquel ?
Watermal-Boitsfort.
Craignez-vous un regain de précarité ces prochains jours, ou selon vous, il n'y aura pas cette vague de faillite et de désarroi social qu'on nous annonçait au début de l'épidémie, là, pour le coup ?
Ah, moi, je le constate très clairement, en tout cas.
Vous le constatez déjà.
Alors, je suis dans une commune dite du Sud, donc on dit que c'est une commune riche, où en fait, on me dit souvent, il n'y a pas de pauvres à Boitsfort. À Watermal-Boitsfort, c'est 20% du bâti qui est du logement social. Vous me donnez l'occasion d'en parler, donc je le dis. Si 20% du bâti, c'est énorme. Dans d'autres communes, c'est 3, 4%, 5%. C'est une bonne chose. C'est le logis Floréal. Si vous êtes jamais venu, je vous invite à venir voir, c'est magnifique. Il n'empêche que ce n'est pas parce que quelqu'un rentre dans un logement social que pour autant il va au CPS, mais on peut s'attendre à ce qu'à un moment donné il y fasse appel, et c'est normal. Ici, en un an de temps, au CPS de Watermal-Boitsfort, on a vu une augmentation des demandes de 40%. C'est la commune où il y a eu le plus proportionnellement d'augmentation de demandes. Je ne vous dis pas évidemment l'impact que ça peut avoir d'abord sur un plan budgétaire pour le CPS, pour la commune, mais aussi en termes de ressources humaines. On a dû engager davantage d'assistants sociaux, de logistique derrière, pour pouvoir avoir un accompagnement qui est le plus efficace et le plus humain possible pour celles et ceux qui désormais viennent toquer au CPS. Est-ce que cette situation va rester durer ? Ça, c'est la vraie question. Et je suis incapable de vous répondre maintenant. On va tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Pour ce faire, il faut pouvoir relancer plus rapidement l'économie. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est autant battu pour que Bruxelles puisse bénéficier d'un plan de relance européen qui soit plus ambitieux que celui qu'il a pu obtenir maintenant. Je rappelle que c'est à peine 300 millions sur les 6 milliards que l'Europe dégage pour la Belgique. Bruxelles n'en a pu dégager que 300 millions. Pense que là aussi, on a loupé le coche, entre autres pour ces 30-40% en plus de personnes qui viennent toquer au CPS de Watermal-Boitsfort.
Cela dit, la tutelle européenne, selon vous, est une bonne tutelle. Vous êtes un européaniste, en ce sens, pour gérer les solutions, les situations de crise de ce type.
Je suis un européaniste. Je pense aussi qu'on va devoir un jour avoir des leaders qui ne font pas la défense de l'Europe uniquement pendant leur campagne électorale. Ils doivent également, une fois au pouvoir, oser défendre plus d'Europe, mais une Europe évidemment plus efficace, qui est aussi plus démocratique et plus participative. Je crois que c'est aussi un des problèmes qui aujourd'hui fait qu'il y a une telle distance entre les citoyens et l'Europe. C'est pas simple. C'est pas simple du tout, parce que vous savez, quand vous êtes élu local, ne fût-ce que pour faire connaître votre décision dans votre petite commune, ça pourrait déjà vous prendre toute la journée et encore. Évidemment, quand vous prenez une décision pour l'ensemble de l'Europe, il faut se lever tôt pour arriver à informer tout le monde. Votre émission de ce matin est une des raisons pour lesquelles on pourrait peut-être y arriver.
Mais on voit monter une sorte de souverainisme, et d'ailleurs le Royaume-Uni, pour lequel on présageait de sombres jours suite au Brexit, s'en sort relativement bien dans la sortie de crise, dans la gestion de la crise épidémique. L'Europe a un peu, en tout cas dans les mentalités, dans l'imaginaire collectif, du plomb dans l'aile, et c'est peut-être justifié, peut-être faut-il qu'elle se réforme également.
Oui, chaque fois qu'on a tenté une réforme, évidemment, ça prend des années, ça prend des mois, on passe parfois par des référendums et ça affaiblit encore plus l'Europe souvent, même si in fine ça peut quand même toujours la renforcer. Je crois que l'Angleterre, on doit être prudent. C'est vrai qu'ils ont une gestion de crise ici, une sortie de crise qui peut paraître correcte. Je vous rappelle quand même les images de janvier, décembre, février, c'était pas top, hein, là-bas, c'était pas top du tout. Et puis maintenant, une fois que la crise sera derrière nous, on espère que c'est pour très vite, on va voir la situation économique. Est-ce que l'Angleterre, toute seule, même s'il y a un esprit d'entreprendre qui, je crois, est beaucoup plus développé que l'européen de base, et ça, c'est une chance, évidemment, pour les Anglais, est-ce que l'Angleterre toute seule va parvenir à développer des contrats suffisamment puissants avec les autres puissances mondiales ? Je suis un peu plus sceptique.
Le MR a ce libéralisme un peu particulier, teinté, parce que c'est la sensibilité aussi belge, francophone, de social. On entend souvent Georges-Louis Boucher défendre ce libéralisme et cette fierté de l'être. Comment définiriez-vous cette particularité quand même du MR belge ?
Alors, le MR belge est profondément libéral. Et je crois que Georges-Louis Boucher défend une vision qui est assez libérale, avec cette particularité qui est très typique à la Belgique francophone, c'est qu'il n'y a très peu d'opposants politiques sur la droite. On est en fait assez seul en la matière, ce qui naturellement rend souvent les débats très compliqués. Vous savez, moi j'ai la semaine passée été à 3-4 débats qui soient télévisés ou radiophoniques. Vous avez à chaque fois la présence du PTB, du Parti Socialiste et d'un ou d'autres partis qui se qualifient plutôt de gauche, voire de centre-gauche. Et donc je dirais que les débats sur une vision libérale ou une vision peut-être plus de droite pour certains sont assez rares et qu'on est souvent assez seul à défendre un positionnement libéral et le libéralisme est social par essence. Sauf qu'il faut parvenir à l'expliquer. Ça demande souvent beaucoup plus de pédagogie. Vous savez, moi je suis même président de CPS, on me dit toujours, mais enfin, tu es maire, comment ça se fait que tu puisses être président de CPS ? Ça demande énormément de pédagogie, mais pourtant, vous savez, quand je vois celles et ceux qui entrent au CPS et que l'on parvient à faire sortir parce qu'on a trouvé une formation pour eux, un job, ou qu'on a permis de leur faire développer leur propre emploi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup développé en tant que libéraux. Donc désormais, vous entrez au CPS, vous pouvez créer votre propre emploi moyennant un accompagnement de maximum 18 mois. Ça, c'est une politique qui est profondément libérale, mais dans un monde qui est parfois fort social.
Oui, la liberté d'entreprendre, qui est certaines fois un cache-misère du chômage. Oui. Il faut évidemment l'encadrer, c'est ce que vous dites.
Oui, oui.
Parce qu'on ne peut pas lancer des auto-entrepreneurs, comme on dit, dans la nature.
On peut pas. Mais vous avez, je crois que c'est une déficience des pouvoirs publics. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs dans l'âme, surtout à Bruxelles, que ce que l'on veut bien croire. Et à Bruxelles, en tout cas, depuis ces dernières années, on n'a pas tendu la perche à tous ces jeunes qui voudraient oser, qui voudraient créer, qui voudraient innover. Ceux qui l'ont fait, ce sont souvent des acteurs privés. Je vais vous en prendre trois au hasard. Vous avez Bicentral, qui est fort connu, c'est un acteur privé. Vous avez l'école 19, de mon ami John Bogart, c'est une école privée. Vous avez dans un autre milieu, mais quand même, Molenbeek, c'est aussi un acteur à la base privé. Tout ça, l'idée de base, évidemment, de ces initiatives-là, c'est d'aller chercher des jeunes, souvent des quartiers, mais pas toujours, qui ont cet esprit d'entreprendre, qui veulent coder, qui veulent casser des codes, mais qui n'ont pas trouvé de plateforme, qu'elle soit publique ou autre, ailleurs à Bruxelles, qui se sont retrouvés vers ces acteurs privés. On doit davantage encourager cet esprit d'entreprendre parce que je suis convaincu que ça sera le salut de Bruxelles.
Oui, le libéralisme comme facteur d'intégration aussi, c'est les 30 ans aujourd'hui des émeutes de forêt en 91. Évidemment, à l'époque, la police fonctionnait différemment en Belgique et on s'est rendu compte que précisément en termes d'intégration, la Belgique avait accueilli des populations immigrées sans faire grand-chose. Est-ce que selon vous, dans les 30 ans qui nous séparent de ces émeutes-là, qui quand même étaient dramatiques, quelque chose s'est fait ou est-ce qu'il y a quand même des efforts à faire quand on voit certains quartiers qui sont, disons, enclavés, là aussi, dans quel sens il faudrait aller pour plus d'intégration peut-être ?
Ah oui, on s'est planté. On s'est planté parce que vous savez, moi ces quartiers-là, je les connais bien. Depuis que je suis devenu président du maire de Bruxelles, j'ai dit qu'on allait retourner, nous libéraux, davantage dans ces quartiers parce qu'on n'y était pas assez, on nous a pas assez vus, on a trop déçus. On s'est planté et on n'a pas utilisé les bonnes recettes pour justement tenter de sauver ces quartiers. Quelles sont les bonnes recettes ? Parce que c'est facile de dire, mais il faut pouvoir venir avec des exemples. Moi, je prends toujours un exemple, pas très très loin de Bruxelles. Vous allez à Malines, une ville qui est gérée par un gars qui s'appelle Bart Somers. Il a connu et il a eu des quartiers style des Marolles, voire pire. Il a du coup appliqué une recette avec trois ingrédients. Le premier ingrédient, malheureusement, il n'y a pas de miracle, ça a été un ingrédient sécuritaire, c'est vrai. Ça a été de développer les conditions pour s'assurer que celles et ceux qui bougent dans ce quartier soient dans un lieu sécurisé. Il y avait aussi des trafics de drogue, il y avait des bandes urbaines, des gangs. Tout ça, il y a mis évidemment beaucoup d'énergie pour s'assurer que ceci soit éradiqué. C'est un premier point. Deuxième point, il a construit tout un univers social autour d'un noyau qui est l'école. Avec à côté de l'école, des crèches pour que les enfants, pour que les parents puissent mettre leurs enfants alors qu'ils suivent une formation, évidemment des services sociaux, des acteurs comme TADA, par exemple, que je vous invite à inviter ici, qui sont des acteurs qui tendent la main à ces jeunes qui n'ont jamais connu rien d'autre que leur quartier et qui les amènent, par exemple, dans l'université, dans des entreprises, parce qu'on ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas et les accompagne pendant plusieurs années. Ça, c'est le deuxième volet, donc tout autour de l'école. Et le troisième volet, c'est une revitalisation urbaine de chaque quartier en mettant les moyens pour s'assurer que ce n'est pas parce que vous êtes dans un quartier pauvre que vous devez avoir un banc de mauvaise qualité, une route ou un trottoir de mauvaise qualité. Ça, c'est un élément, une recette en trois ingrédients que l'on aurait dû appliquer à Bruxelles. C'est ce qu'il a fait à Malines. Et en 20 ans de temps, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un succès. D'ailleurs, il a été élu meilleur bourgmestre au monde. C'est symbolique, mais quand même, ça mérite d'être souligné.
Pourquoi ça ne se fait pas ici, si l'exemple est si concret et parlant ?
Je crois, mais vous allez dire que c'est politique. Ça fait 20 ans que le MR est dans l'opposition.
Oui, c'est une réponse.
Voilà, mais c'était facile pour moi. Ouais.
Je rappelle à nos auditeurs qui l'ont compris, j'imagine, par votre réponse, que vous êtes président du MR en région bruxelloise. Merci infiniment, David Leister, d'avoir bien voulu passer du temps avec nous en cette journée qui, pour nous, je dois le dire, est spéciale bien à cause des événements de cette nuit. À bientôt.
Merci à vous.